Cette émission vous est proposée avec la sublimeuse participation de Nico Silk, Benjamin Balatin, Pierre-Alexandre Coquel, Benoît Balzola, Olivier Louvigne, Jean-François Zinc, Ezig, Bruno Autret, Mathieu Santo Stefano et Vincent. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. On suit tous les blogs, toutes les news, toutes les infos et on vous en fait un résumé facile à digérer. Et même quand on réussit au mieux, on vous amuse un petit peu en faisant tout ça. Donc vous êtes partis pour une heure à une heure et demie de bons moments qui vous seront en plus utiles pour résumer toute l'actu tech qui est si importante pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Et pour m'aider à vous aider à comprendre le monde d'aujourd'hui, j'ai avec moi Guillaume, notre spécialiste de toute la statosphère du monde moderne. Comment vas-tu, Guillaume ? Est-ce que ce titre te convient ?
Oui, ça va. Oui, bah ça va très bien, de bonheur et de bonne humeur comme chaque lundi matin.
Ouais, hein, très bien, très bien.
Voilà.
Bah, quand on aime ce qu'on fait, on est toujours de bonne humeur quand on se lève de bonne heure, n'est-ce pas ?
Voilà, tout à fait.
Bon, très bien, très bien. J'ai oublié de dire mon nom, je m'appelle Patrick Béja, c'est peut-être poli de se présenter aussi, même si j'espère que la plupart d'entre vous s'en souviennent. On a donc un programme qui est un petit peu plus léger que d'habitude, je dirais. J'ai eu qu'une seule information importante à retenir. D'habitude, j'essaye d'en sélectionner deux ou trois. Et c'est amusant parce que les épisodes précédents avaient des sujets un petit peu lourds, un petit peu compliqués, qui nous avaient pris beaucoup de temps. Et ça commençait à m'inquiéter un petit peu. J'ai envoyé une question aux patriotes, aux gens qui soutiennent l'émission financièrement, pour savoir si ce type de rythme les dérangeait ou pas. Et j'en parlerai un petit peu plus tard dans l'émission. Mais les gens m'ont dit, y a pas de raison de se limiter ou de se donner des contraintes artificielles. Il faut faire ce que demande l'actualité. Et quand c'est justifié, il n'y a pas de raison que ça soit pas bon. Donc j'ai été très rassuré par ce qu'ils m'ont dit. Et il se trouve que juste l'épisode suivant, en fait, l'actualité est un petit peu plus légère. Donc ça m'a été super utile parce que au lieu d'essayer de rajouter artificiellement pour me dire il faut tenir dans tant ou tant d'infos ou tant de temps, je me dis non, on va suivre les infos importantes. On a pas mal de news et rumeurs intéressantes, mais sur les infos importantes vraiment à retenir, donc la première partie de l'émission, je pense que selon mon analyse très pointue, on a qu'un seul événement qui a été vraiment important et c'était le lancement de Facebook Instant. Alors, qu'est-ce que c'est que Facebook Instant ? Guillaume, est-ce que toi tu as suivi l'affaire d'un petit peu près quand même? Tu veux expliquer rapidement ce que c'est que Facebook Instant ou je le fais?
Je peux essayer. C'est juste que pour le coup ça a été lancé uniquement sur iPhone. Je pense que les possesseurs d'iPhone ont déjà pu avoir un œil là-dessus. Moi j'ai juste regardé ce que ça rendait sur des vidéos de démonstration. En gros, Facebook met en place un système, un lecteur de news élaboré et très esthétique. On peut imaginer ce qui existait à l'époque avec Google, c'était Google Current, il me semble.
Current, ouais.
Voilà, où on peut faire un rapprochement sinon avec Flipboard. C'est intégré à Facebook. Ça se base sur les flux RSS d'une sélection de grands sites de médias. Pour l'instant, c'est 9 médias américains, il me semble. Ou alors, c'est des médias américains, ouais. Plus 2 médias allemands, il me semble.
Alors, Ouais, en fait, une petite précision quand même, c'est pas sur le flux RSS, c'est avec des partenaires spécifiques et c'est des articles qui sont conçus spécifiquement pour Facebook Instant. En fait, c'est Facebook qui héberge le contenu de ses partenaires. Donc, les articles sont hébergés par Facebook sur les serveurs de Facebook. Donc, c'est quand même très spécifique
Alors,
comme nouveau domaine de médias.
pour l'implémentation technique, il me semble qu'il est prévu qu'il se base sur les flux RSS pour
À
pouvoir
terme, peut-être.
automatiser le système. Mais c'est vrai que dans un premier temps, comme il s'agit surtout d'en faire une démonstration visuelle, ils sont allés chercher évidemment des partenaires qui ont vraiment poussé le truc pour que ça soit excessivement, enfin, extrêmement esthétique et appréciable. Il y a des effets visuels qui sont assez bluffant. Quand j'ai regardé une des démonstrations, en fait, on visualise donc toujours verticalement l'article. Il est épuré. Il n'y a vraiment plus que le texte et les photos et les vidéos. Et on a plein d'effets. Si on a une photo qui est plutôt horizontale, on sait qu'on peut tourner latéralement le téléphone. On a la photo qui va vaciller, comme ça on peut la voir en entier. Comme dans la timeline Facebook, lorsqu'on tombe sur une vidéo, la vidéo se lance automatiquement. Donc, il y a un côté vraiment instantané. Et puis il y a une sensation de temps réel qui est vraiment augmentée par le fait que bah, c'est extrêmement réactif.
C'est un peu la raison pour laquelle ils ont lancé ce programme, en fait. D'ailleurs, ça se reflète dans le nom Facebook Instant. L'idée, c'est d'avoir les articles des partenaires, les articles qui sont liés sur Facebook, qui s'affichent aussi vite qu'une update de statut Facebook elle-même. C'est vraiment pour ça qu'ils ont voulu implémenter ce système, selon eux. Leur réflexion était partie de l'idée que, enfin de la constatation plutôt, qu'un article sur Facebook prenait quelque chose comme 9 secondes à être chargé entre le moment où on cliquait sur le lien et le moment où l'article était entièrement chargé sur le site dont le qui était auquel le lien faisait référence. Donc, ces 9 secondes qui peuvent paraître vraiment courtes si on pense à la longueur de notre vie, évidemment, sur Internet où tout va plus vite, c'est quand même un petit peu long et de nombreux utilisateurs de Facebook n'allaient pas jusqu'au lien lui-même et l'expérience utilisateur de Facebook en était affectée. Donc, Facebook a dit on va essayer de créer une meilleure expérience utilisateur, et la vitesse est essentielle pour cette expérience. Et tu as raison, Guillaume, en fait, ils ont créé un outil qui permet de récupérer les articles des flux RSS des journaux, et ensuite de les retravailler si les journaux le souhaitent. Et donc, ils ont lancé avec, comme tu le disais, un certain nombre de partenaires, 9 partenaires, 5 partenaires américains, donc le New York Times, National Geographic, BuzzFeed, NBC News et The Atlantic. Entre parenthèses, BuzzFeed, qui est une publication qui a connu un succès météorique. C'est une expression anglaise, hein, meteoric rise, parce qu'il y a quelques années, c'était uniquement des vieilles photos de chats marrantes et des trucs un petit peu scandaleux. Et aujourd'hui, ils sont une vraie force du contenu aux États-Unis, en tout cas. Bref, il y a aussi 2 partenaires anglais, The Guardian et BBC News, et 2 partenaires allemands, Spiegel Online et Bild. Donc, tous ces gens-là ont accès à l'outil Facebook Instant, prennent leurs articles existants, peuvent les agrémenter de tous ces effets dont tu parlais, qui sont effectivement du meilleur effet. On a des petites images animées en GIF, hein, ou en GIF, et on a des films et on a ces photos, comme tu le disais, qui s'orientent en fonction de la manière dont on tient le téléphone. Ça fait peut-être un petit peu gadget, mais la partie essentielle, enfin, il y a des cartes, il y a plein de choses, mais la partie essentielle, c'est effectivement que ça se charge instantanément, quand on clique sur l'article, ça se charge immédiatement, contrairement à une sortie de l'écosystème Facebook où il faudrait déjà attendre, enfin avoir la petite barre en haut qui dit télécharger notre app, l'alerte qui dit si vous voulez une meilleure navigation, vous pouvez aller sur l'App Store pour notre app là aussi, et puis la pub qui vient s'afficher en plus, et puis le machin où il faut cliquer à côté pour faire... enfin bref, c'est souvent un petit peu pénible. Là, l'expérience est complètement, comme on dit en anglais, streamlined.
Alors oui, je suis entièrement d'accord en fait, mais sur le plan de la prouesse technologique et du plaisir pour les yeux, c'est indéniable, c'est très très bien fait. Bon, après on peut rentrer un petit peu plus dans la théorie, enfin je veux dire dans les contreparties négatives.
Ben oui, il faut, je n'attendais que ça, Guillaume.
Moi, je suis du genre à voir d'abord le négatif et ensuite le positif. Là, j'ai fait l'effort de me concentrer d'abord sur le positif.
Bon, bah vas-y, envoie toute la sombritude de ton esprit.
Alors, d'abord, effectivement, la vitesse de téléchargement est un argument très fort. Mais en fait, moi, je vois un problème par rapport à ce système. D'abord, c'est que on est en train d'enfermer l'internaute, on est en train de l'enfermer dans l'écosystème Facebook. C'est-à-dire que de plus en plus, on va se retrouver avec des internautes qui pensent que le web, c'est Facebook. J'extrapole très vite en fait, mais c'est cette sensation-là que ça peut donner à terme, parce qu'au bout d'un moment, on se retrouve donc avec un système où on n'a plus besoin de sortir de Facebook, ou du moins, on pousse les gens à ne plus avoir besoin de s'extraire de Facebook. Si je fais dans l'ordre, on prend d'abord l'argument au sujet de la vitesse du téléchargement. Elle est juste à partir du moment où on continue de ne pas afficher les publicités d'un serveur tiers. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la plupart des médias n'hébergent pas leurs médias, enfin n'hébergent pas leur publicité. Mmh. Il y a des outils tout simples hein, pour évaluer ça. Par exemple, GT Metrics, j'ai fait un test, je crois, sur, sur le Nouvel Observateur. En fait, on se rend compte que ce qui prend le plus de temps, c'est avant tout la publicité.
Et donc, plus de temps à charger, tu veux dire.
Voilà, le plus de temps à charger au lancement d'une page ou d'un article, c'est la publicité. C'est elle qui occupe 50% du temps de chargement. À partir de là, parce que en fait, la promesse de Facebook est de conserver les publicités si le média le demande. À la base, c'est quand même épuré. Normalement, on a juste une page qui contient un article et le contenu multimédia utile à l'internaute. Mais il y a la possibilité d'inclure les publicités si le média le demande. Moi, j'ai la sensation que si on inclut les publicités du média, prenons The Guardian, si on inclut les publicités qui est dans les articles du Guardian, on va se retrouver avec un système qui sera pas aussi rapide que la démo faite sans publicité, automatiquement.
Bien sûr, mais ça sera quand même plus rapide que si on doit sortir et aller sur le site du Guardian lui-même, rien que ce temps de chargement sera un petit peu plus long que si on fait tout ça directement chez Facebook.
Bien sûr, mais en fait, le délai sur mobile s'explique par le fait que souvent, on souhaite lire un article depuis Facebook. Lorsqu'on souhaite lire un article depuis Facebook, voilà, on sollicite une opération multitâche, puisque en fait, on switch d'une appli mobile à une autre, et c'est ce délai-là aussi qui peut prendre du temps, c'est-à-dire qu'on est sur l'appli Facebook, et puis on passe sur l'appli Chrome pour pouvoir lire l'article. Donc on a ce switch-là.
Mais donc tu penses, en gros, pour résumer, que ça risque de pas être aussi rapide quand ça sera en situation réelle sur le moyen terme, en fait.
En gros, c'est ça. Disons que pour moi, mais je suis peut-être un peu vieux jeu hein, sur la question, même si je suis assez enthousiaste quand même. Mais sur ça, je me dis que rien ne vaut un navigateur avec des onglets, et puis on passe d'un onglet à un autre.
Ah oui, mais c'est peut-être toi. Je pense qu'il y a effectivement une préoccupation qui est légitime, dont on parlait d'ailleurs quand on avait évoqué ce projet de Facebook Instant il y a quelques mois, et qui est la principale raison pour laquelle le sujet est si important à mon sens, c'est cette question: est-ce que les internautes qui, eux, ne sont pas forcément aussi dépendants de leur navigateur avec des onglets, comme tu dis, les gens qui sont la masse des internautes dans le monde, ou au moins dans l'Occident, est-ce qu'on n'est pas en train de dire à ces gens-là, eh ben, Facebook, effectivement, c'est Internet. Mark Zuckerberg est en train d'intégrer le contenu des médias tiers à son propre écosystème, et du coup, il est en train de créer un écosystème pas fermé, c'est un écosystème fermé dans lequel les gens ont le choix d'aller ou pas, mais un écosystème fermé qui serait peut-être un petit peu comparable à celui qu'on avait au tout début d'Internet avec AOL, et je sais que Internet et AOL ne sont pas du tout équivalents, mais on avait AOL qui était la vision fermée d'un réseau où on allait sur AOL et tous les contenus étaient intégrés sur cet écosystème-là. Donc, effectivement, tu as raison, c'est une des grandes questions. Est-ce que Facebook n'est pas en train de recréer un écosystème fermé qui engloberait de plus en plus d'Internet ? On sait qu'ils hébergent des photos, évidemment, depuis très longtemps. Depuis quelque temps, ils hébergent aussi des vidéos. Maintenant, ils hébergent des articles. Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces médias, ces partenaires médias, ne sont pas en train de vendre leur âme finalement à Facebook en mettant leur contenu chez eux et en perdant un petit peu le contrôle finalement ?
Bah, c'est toute la question effectivement. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on en arrive petit à petit à une situation où tout ce qui n'est pas accessible depuis Facebook n'existe plus vraiment pour l'internaute lambda. Avec l'arrivée des applications web, en fait, il y a des études qui ont montré que les internautes savaient de moins en moins se servir d'un navigateur web. Donc effectivement, la sensation d'enfermement n'est pas... Enfin, c'est pas une sensation à proprement parler, mais concrètement, lorsqu'on regarde les metrics, par rapport au comportement des internautes, on se retrouve vraiment avec des internautes qui ne sortent plus de Facebook. C'est une réalité. Et par rapport à ce que tu disais, effectivement, pour la presse, on peut se demander si... Là, ils viennent pas d'entrer en disruption totale. Ils deviennent... Enfin, c'est la preuve qu'ils n'ont... Enfin, je vais être assez définitif, mais j'ai cette sensation qu'ils n'ont jamais évolué. Jamais. En fait, ils sont arrivés sur le web de force, et en fait, ils ont ensuite tout fait à contre-cœur. C'est cette sensation-là vraiment de mauvaise volonté que je vois. Et lorsque il y a un acteur qui propose ceci ou cela... Au début, ils sont ravis. Cela dit, pour Google News, je ne sais pas si au début, ils étaient ravis. Mais là, lorsqu'on voit l'accueil fait par des partenaires américains, anglais et allemands à Facebook Instant Articles...
Tu penses qu'ils sont en train de ils font tête baissée sans réfléchir ou alors ils le font parce qu'ils ne comprennent pas l'importance et qu'ils risquent de le regretter plus tard, finalement.
Mais je suis surpris du manque de visibilité, quoi. Je suis sidéré que des médias américains, aussi critiques envers Google, puissent se jeter aussi facilement dans la gueule de Facebook.
Bah écoute, c'est tout à fait la réflexion que je me suis fait au tout début. Il y a eu effectivement une sorte de réaction de rejet de cette idée, et je me suis dit mais c'est quand même étrange que et tu comparais effectivement avec Google News qui aujourd'hui est un fléau, enfin est perçu comme un fléau par certains médias alors qu'en fait il les aide beaucoup, mais c'est un autre débat. On pense aussi à iTunes par exemple, qui a sauvé l'industrie de la musique, ou on pourrait dire qui a initié en tout cas la transition numérique dans laquelle les acteurs de la musique se sont lancés et qu'ils ont ensuite regretté parce qu'ils étaient trop dépendants de iTunes et d'Apple et du bon vouloir d'Apple. Et là, effectivement, on pourrait tout à fait voir un parallèle assez clair avec ce qui se passe avec Facebook Instant. Ceci dit, je pense qu'il y a aussi une autre manière de voir les choses qui est assez radicalement opposée à celle-ci. D'une part, aujourd'hui, j'allais dire au jour d'aujourd'hui, mais je sais que ça hérisse certains des auditeurs, donc je ne le dis même pas. Aujourd'hui, il y a... la situation telle qu'elle est établie par Facebook est extrêmement avantageuse pour les partenaires au niveau financier. C'est-à-dire qu'ils récupèrent 100% des pubs qu'ils placent sur leur propre contenu, y compris sur Facebook. C'est-à-dire que le fait de mettre du contenu sur Facebook n'encourt aucun frais. Si jamais il y a des pages affichées pour lesquelles, donc de l'inventaire pour lequel ils n'avaient pas réussi à placer de pub, Facebook place des pubs pour eux et leur donne 70% du revenu. Donc Facebook prend une part de 30% des revenus de la pub uniquement pour ce que les partenaires n'ont pas réussi à vendre. Donc c'est au niveau financier très intéressant. Ensuite, les partenaires gardent le contrôle sur tout ce qu'ils font. C'est eux qui ont le contrôle sur le contenu, en ce sens que c'est eux qui le construisent, c'est eux qui les gèrent, etc., etc. Donc, il y a... les algorithmes ne sont pas altérés pour ces articles. C'est-à-dire que Facebook ne traite pas ces articles de manière différente. On pourrait se dire peut-être que Facebook va vouloir mettre ces articles-là plus en avant parce qu'ils sont plus avantageux pour eux et en désavantageant les articles, les autres articles qui lient vers les sites web, donc vers le contenu vraiment 100% propriétaire des partenaires. Facebook a dit pas du tout, on ne va pas le faire comme ça, ces articles seront gérés comme tous les autres. Et bon, on peut se dire que ces articles-là seront plus partagés parce qu'ils sont plus facilement accessibles, mais il n'empêche que sur l'algorithme, rien ne va changer. Alors, de l'analyse de tous, la situation telle qu'elle est maintenant est un petit peu idéale pour toutes les parties qui sont impliquées dans cette affaire, à la fois Facebook et les partenaires et les lecteurs, les utilisateurs de Facebook. Alors, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'un Facebook qui changerait les règles à terme. Bien sûr, hein, on ne peut jamais être certain de ce qui va se passer. Mais pour le moment, c'est assez bien conçu et assez bien goupillé. Maintenant, pour en venir à la grande question que tu évoquais, c'est-à-dire les créateurs de contenu qui vendent leur âme au diable ou leur âme à Zuckerberg, c'est quelque chose qui, à mon sens, est une vision assez à court terme. Parce que le fait est que Le contenu va être présent partout de toute façon et que si jamais certains partenaires ne prennent pas avantage de cet outil que leur fournit Facebook, d'autres le feront. Et il y a aujourd'hui une intégration, peut-être, je ne sais pas si c'est le cas en France encore, mais en général, dans le monde des médias, ils ont intégré l'idée que de toute façon, Internet est ouvert et que Internet inclut Facebook, mais inclut tous les endroits, tous les médias où on peut voir du contenu. Et donc, il faut essayer d'être présent partout. Autant d'endroits où on peut être, il faut essayer d'y être. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, avoir une sorte de vision un petit peu réductrice de l'écosystème du net et se dire, bon, moi j'ai mon site web et je vais garder mon contenu sur mon site web et si les gens veulent le voir, il faut qu'ils viennent sur mon site web et nulle part ailleurs et c'est mon site web où je vais avoir mes trucs. Non, c'est une vision qui est extrêmement réductrice et extrêmement justement passéiste de la manière dont on gère son contenu sur Internet. A priori, alors que ça soit bien ou pas, ce qui semble plutôt fonctionner, ce qui a été prouvé à de nombreuses reprises, c'est qu'il faut essayer d'être présent absolument partout. Si on a un site web, il vaut mieux avoir un flux RSS qui va fournir le contenu autant qu'on peut. Si on a du contenu vidéo, il vaut mieux le mettre sur YouTube, sur Facebook, peut-être même sur Dailymotion, particulièrement si on est français. Si on a des photos, eh ben, il faut avoir un compte Instagram, il faut essayer d'être présent partout. Et d'une manière ou d'une autre, au final, cette présence partout finit par se transformer en fidélité ou en intérêt des internautes et ça finit par donner quelque chose. Alors ça reste un petit peu nébuleux, mais Moi, je suis particulièrement touché par la chose parce que le monde des podcasts est un monde où tout est disponible. Enfin, n'importe qui peut prendre un podcast et le mettre sur son site web. N'importe qui peut diffuser la chose. Nous, on essaye d'être sur iTunes, sur Stitcher, sur partout. Donc, c'est quelque chose qui me parle. Mais encore une fois, BuzzFeed est un exemple très flagrant de cette philosophie. Quand, par exemple... Facebook Flipboard s'est lancé, il fallait être présent là-bas aussi. Et BuzzFeed a cette philosophie et ils ont très bien réussi. Donc voilà, il y a une autre vision aussi de cette idée qu'il ne faut pas que je me mette au lit avec Facebook parce que je vais finir par me faire avoir.
Je voudrais contrer un petit peu quand même. Je suis d'accord globalement.
Bien sûr, vas-y, vas-y.
Effectivement, c'est une technique de web marketing qu'on recommande énormément aujourd'hui, c'est qu'il faut être présent le plus possible dans un nombre d'endroits le plus important possible, parce que c'est important que le trafic puisse être récupéré de partout. Le problème que je perçois, c'est qu'en fait, il faut quand même ne pas perdre de vue que le seul endroit où on possède, mais on possède au sens presque littéral du terme, on possède son contenu, c'est sur son site web. C'est le seul endroit, mais vraiment le seul, où on possède on possède tout ce qu'on fait.
On possède et on contrôle, ouais.
Voilà, c'est le seul endroit où on possède, voilà, où on a le contrôle total sur ce qu'on fait, mis à part les hébergeurs qui pourraient aussi poser problème. Mais c'est le seul endroit, c'est-à-dire que faut pas se leurrer, les règles de Facebook, en réalité, changent régulièrement. C'est pratiquement, c'est plusieurs fois par an, ça change régulièrement. Ne serait-ce que, par exemple, lorsqu'on crée une page de fan et qu'on commence à publier des choses sur une page de fan Facebook, au début, il y avait la promesse que les gens allaient pouvoir voir à partir du moment où vous étiez inscrit à votre page Facebook. Au final, maintenant, selon le contenu de votre page Facebook, ils sont entre 25% et 50% à voir votre contenu, parce que Facebook a implémenté son algorithme à base de reach, où au final, l'argument que je trouve un peu fallacieux, c'est de dire on peut pas tout vous montrer, parce que il y a beaucoup trop de choses à vous montrer, donc on vous montre que ce qui vaut le coup, et ensuite libre à vous d'aller sur les pages de fans pour voir ce que vous n'auriez éventuellement pas vu.
Ouais, moi je trouve cet argument complètement cohérent dans un monde où les gens ajoutent des dizaines, des centaines de likes sur des pages de fans et ont en plus des dizaines et des centaines d'amis. Mais bon, c'est un autre débat. Moi je trouve qu'ils ont tout à fait raison dans cet argument. Les marketeurs sont très contre, mais d'accord.
La règle principale, enfin, l'objectif principal derrière ça, c'est de vendre de la publicité. C'est uniquement ça.
Ouais, à mon sens. Bon, enfin bon. D'accord, oui, c'est un autre débat.
J'ai beaucoup de mal à croire qu'on n'arriverait pas à nous montrer tout ce qui est diffusé sur les pages de fans.
Mais les gens ne verraient pas tout. Parce que tu ne vas pas redescendre dans ton flux sur tout le truc. Alors, tu aurais un petit compteur qui te satisferait, toi, en tant que... marketeux, parce que tu aurais, j'ai 2000 fans et il y en a 1800 qui ont vu mon truc, mais c'est juste que ça s'est affiché en théorie dans leur flux. Peut-être même que ça s'est pas affiché parce qu'ils avaient, quand ils sont revenus sur Facebook, 200 updates et ils n'ont regardé que les 100 dernières. Mais même s'il y en a 100, ils vont passer très très vite, scroller très très vite pour aller jusqu'en haut, et ils vont pas voir tout ce qui a été affiché. Mais bon,
mais alors, je veux bien, mais à ce moment-là, je préfère un flux RSS qui contient la totalité de ce que je publie et que la personne est un lecteur de flux RSS et qu'elle lise.
Libre à toi de le faire comme ça. Mais tu peux, si tu es chez Facebook, effectivement, ça se passe pas de cette manière.
Et donc la finalité de ça, je pense que Facebook est capable, enfin, un taux de rétention qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que n'importe quel gros acteur, que même qu'un Google News ou qu'un gros acteur américain dans le domaine. Et je pense qu'avec ce taux de rétention là, on va se retrouver avec des sites internet qui vont être désertés. Je pense que à terme, c'est ce qui peut arriver lorsqu'on augmente à ce point le taux de rétention de Facebook. Et je pense que ça va à l'encontre justement de l'idée où il faudrait que les gens aient le réflexe d'aller sur le médium qu'ils préfèrent pour pouvoir voir le contenu. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est quand même 800 millions de comptes actifs Facebook, avec des pays où on dépasse les 50%. Donc, au bout d'un moment, on va quand même se retrouver avec des gens qui sont uniquement dans l'écosystème Facebook. Aujourd'hui, ils en sortent déjà difficilement. Je pense qu'à terme, ils seront une grande majorité à être dans Facebook et à tout faire dans l'écosystème Facebook.
Je crois que c'est une vision un petit peu, qui n'est pas fausse, mais qui est un petit peu apocalyptique, je dirais. C'est vrai qu'il y a une tendance qui va dans ce sens-là, mais en même temps, je crois qu'il faut changer la manière dont on voit son contenu. Le contenu, il faut très certainement avoir un lieu central où on a le contenu, notre contenu qui est hébergé et qui est contrôlé. On n'imagine pas un site, je prends au hasard un site comme Le Monde, qui n'est pas son, enfin, un journal comme Le Monde qui n'est pas son site web. Évidemment, il faut que Le Monde ait son site web dont il est propriétaire, qu'il contrôle, qui est son secteur d'activité principal. Mais une fois que tu as cette pièce maîtresse de ta stratégie web, je pense qu'il est illusoire de se dire, moi, je ne vais pas aller sur Facebook parce que je veux que tout le monde vienne sur mon site web à moi. Si tu attends tranquillement que les gens viennent sur ton site web à toi, tu risques d'attendre très longtemps si tu es présent nulle part ailleurs. Alors, il faut considérer le contenu non pas comme uniquement le site web, mais ton contenu comme ce qui vient avant le site web, c'est-à-dire les articles qui sont écrits, qui sont rédigés, et penser où je vais pouvoir les mettre. Alors, est-ce que je vais pouvoir les mettre sur Flipboard? Est-ce que je vais pouvoir les mettre sur mon site web? Évidemment que oui. Est-ce que je vais pouvoir les mettre sur Facebook? Et à chaque fois, sur Facebook, sur Flipboard, sur Twitter, finalement, pour lier vers mon site web, mais tout de même, il y a une partie de l'info qui est perdue. Tous les gens qui vont voir ton contenu, ton titre sur Twitter, ben, certains vont juste voir le titre et vont être satisfaits de l'info qu'ils ont eue, donc vont pas aller cliquer sur le lien derrière pour aller sur ton site. Est-ce qu'il faut avoir des vidéos sur YouTube? Oui, il faut être présent partout, monétiser partout. La question n'est pas de se dire je vais avoir mon contenu sur différentes plateformes sans monétisation pour avoir de la notoriété. Non, bien sûr, il faut au moins sur certaines de ces plateformes, sur certaines on gagne de la notoriété, sur certaines on monétise, etc., etc. Mais il faut considérer la matière première, à mon sens encore, hein, non pas comme le site web, mais comme le contenu. Et ensuite, modeler le contenu en fonction du média où on va l'exposer. Alors, encore une fois, le média, ça peut être Facebook, ça peut être YouTube, ça peut être Twitter, ça peut être Flipboard, ça peut être notre propre site web, ça peut être notre application qui va encore présenter ça de manière différente, etc., etc. Ça peut être des applications, ça peut être accessoirement un détail que j'oublie, et c'est un peu amusant. Ça peut être le journal papier aussi, et il faut essayer tout ça, parce que si tu as une vision réductrice, si tu te dis je veux tout avoir sur mon site web et c'est ça mon produit, tu vas te couper d'opportunités et tu vas laisser le champ libre à d'autres qui vont prendre avantage de ces opportunités. Donc, oui, il existe un danger de l'omniprésence de Facebook, c'est certain. Mais je dirais deux choses. D'une part, je ne suis pas convaincu que ça veut dire que les gens. Il y a énormément de gens qui restent sur Facebook, mais ce n'est pas parce que tu n'es pas sur Facebook qu'ils vont venir sur ton site. C'est des gens. C'est un petit peu comme le problème du piratage, en quelque sorte. On dit souvent, ah, mais regardez, il y a, je ne sais pas, 1 million de personnes qui piratent ce morceau de musique. Et tu te dis, ah ouais, mais s'ils ne le pirataient pas, ils iraient l'acheter. Là, c'est un petit peu l'idée de se dire il y a 800 millions de personnes qui sont sur Facebook. Si on met notre contenu sur Facebook, ça veut dire que ces 800 millions de personnes qui vont le regarder sur Facebook ne vont pas venir sur mon site web. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est qu'il y aurait de toute façon, je ne sais pas, 5 ou 10 millions de personnes qui viendraient sur ton site web et en mettant tes articles sur Facebook, tu vas pouvoir en plus y donner accès à, je ne sais pas, 50, 60 millions de personnes en plus. Tu vois, à mon sens, et c'est 800 millions de personnes actives. Il y a 1,3 ou 4 milliards d'utilisateurs de Facebook. Donc, est-ce qu'il est possible d'ignorer cette tranche de la population ? À mon sens, non, ça serait une erreur.
Je suis d'accord avec tout ça. Moi, juste, si je résume, en gros, il y a deux façons de voir les choses. Toujours le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein.
Ouais,
effectivement, je t'ai présenté les choses d'une manière apocalyptique. Il y a la vision raisonnable qui est celle que tu donnes, et c'est celle que je vais même conseiller à mes clients, etc. Évidemment, c'est exactement ce que tu dis, c'est exactement ce que je leur dis, parce que j'essaye de pas faire peur aux gens, quoi. Mais c'est vrai que dans mon fort intérieur, voilà, je pense que il y a des tendances qui, lorsqu'elles deviennent trop fortes, deviennent problématiques. Alors, ce que je voulais juste dire, c'est que j'avais même pris une note là-dessus. En gros, c'était que de dire que fonctionnalité gadget, et on va trouver ça joli, et puis ça va bien au bout d'un moment, et on finit par l'utiliser une fois de temps en temps, mais ça n'aura jamais un succès supérieur à ce qu'a eu Google Current,
Google Currents, c'était une application extérieure, c'était un truc type Flipboard. Là, c'est déjà inclus dans Facebook, qui est l'outil, enfin qui est le truc que tout le monde utilise déjà énormément. Donc,
oui, mais ce que je veux dire, c'est en termes de fréquence d'utilisation.
Oui.
En termes de fréquence d'utilisation, moi, Flipboard, je l'avais installé. J'utilise même des trucs comme Feedly pour plutôt les flux RSS, etc. Bizarrement, je m'y fais. Enfin, c'est pas que je m'y fais pas, mais c'est que il y a pas le taux de rétention. C'est-à-dire que ça revient. J'y reviens pas. J'y retourne une fois de temps en temps lorsque je veux gagner du temps.
Non, bien sûr, mais là, ce sont des articles qui sont inclus dans ton flux Facebook. T'as pas besoin d'y aller. C'est que si tu utilises déjà Facebook, c'est déjà dans ton flux, tu l'utilises déjà, tu vois.
Oui, j'ai bien compris. C'est pour ça qu'en termes de taux de rétention, je pense que c'est une machine de guerre et que ça peut aller extrêmement loin. Et que lorsqu'il y a des
études... Ah, donc tu veux dire que cette force de frappe est tellement importante que c'est pour ça qu'il faut s'en méfier un peu plus que ces autres outils, c'est ce que tu veux dire?
Oui, mais je comprends également la vision raisonnable. Je me dis juste que... Ouais. Alors, je suis incapable de donner un nom d'étude là immédiatement, mais je les ai lus il y a très peu de temps. Les gens ne savent de moins en moins se servir d'un navigateur web. Ils pensent maintenant par appli mobile. C'est bizarre parce que à l'heure où on est sur des téléphones qui se veulent un petit peu, enfin des OS de téléphone qui se veulent un petit peu plus innovants comme Firefox OS, où on met un peu de côté le fonctionnement par application et on essaye de revenir à des pages web. Je sais pas, j'arrive pas très bien à voir quelle est la tendance. Est-ce qu'on va vers le tout appli, et à ce moment-là, ça risque d'être compliqué pour les sites web, ou est-ce qu'on va au contraire, finalement, vers le tout web avec un système par navigateur?
À mon sens, il y a un petit peu des deux. Le web n'a pas disparu et ne disparaîtra pas. Et les applis sont évidemment là pour rester. Et c'est pour ça, tu apportes de l'eau à mon moulin finalement. C'est pour ça, à mon sens, qu'il faut être présent partout et voir encore une fois son contenu comme la matière première au lieu de voir le site web comme la matière première. Mais je comprends bien ta vision aussi.
Mais je suis d'accord, il faut être présent sur les deux. Je pense juste qu'à court terme, enfin à moyen terme, disons, un des deux sera énormément mangé par l'autre.
On verra. Moi, je pense qu'on est toujours surpris de la manière dont les choses évoluent. Et je vois pas. Je le pensais pendant un moment, mais je pense pas aujourd'hui que Facebook va devenir le web entre guillemets. Il y a cette sorte d'ogre Facebook qui menace Internet et dont certaines personnes voient le voit comme un vrai danger pour le web dans son ensemble. Moi, je crois pas. Je crois qu'il y a effectivement une résilience du web et d'Internet en général qui fait qu'il y a toujours des manières dont les choses se transforment et des évolutions. Et Facebook est évidemment un acteur indétrônable et extrêmement important. Mais de là à se dire que Bon, on en a suffisamment parlé, mais moi, je vois encore les utilisateurs Facebook comme des gens qui n'iraient pas forcément toujours ailleurs pour faire autre chose. Et certains utilisateurs utilisent uniquement des apps et donc vont se limiter à Facebook, Instagram, et voilà. Et d'autres vont utiliser un petit peu plus. Et il y a tout un panel d'utilisateurs différents, mais de la même manière que on va voir que d'une certaine façon, les gens, la manière dont les gens consomment les médias en France, la plupart des gens ne regardent que la télé et généralement regardent plutôt TF1, tu vois. Et c'est pas pour ça que les autres chaînes n'existent pas ou que les podcasts n'existent pas. Enfin bon.
Bon, non, mais je suis d'accord. Juste le petit angle par lequel on n'a pas regardé les choses, c'était que si on regarde très très froidement les choses, en fait, c'est une migration de données personnelles d'un site vers un autre. Je vois aussi les choses de cette manière-là, c'est-à-dire que des gens qui pouvaient avoir l'habitude de soit passer par Google News, soit passer par un moteur de recherche, etc. Là, on est en train, enfin, je pense qu'ils vont en grande partie migrer vers Facebook et on va se retrouver avec des données personnelles qui pouvaient appartenir à Google, qui vont maintenant appartenir à Facebook.
Alors ça, c'est effectivement un autre souci qui est de taille également, mais qui se limite pas à Facebook Instant pour les données personnelles qu'héberge Facebook.
Tout à fait.
Enfin, bon, et finalement, on a fait une grosse partie sur Facebook Instant. Je pense que c'était très important, là aussi, de détailler les deux visions de la chose. Et j'espère que ça vous aura aidé à appréhender cette nouveauté de Facebook Instant et, d'une manière un petit peu plus générale, la manière dont il faut voir le contenu sur le web et que vous serez prêt maintenant à vous faire votre propre idée plus proche de Facebook Apocalypse ou tissu du web avec le contenu comme matière première dans les
question.
Deux cas.
Oui, j'ai vas-y. Je me demandais si on pouvait déjà tester l'application, enfin, ces fonctionnalités-là sur iPhone.
Écoute, moi, j'utilise très peu Facebook. Je fais partie des gens, tu vois, qui ne se limitent pas à TF1 et au mainstream, tu vois. Donc, j'utilise très peu Facebook. Je t'avoue que j'ai pas vu d'article de ce type-là. Donc, je saurais pas te dire, mais j'imagine que oui, il y a pas de raison. C'est disponible en Europe, aux États-Unis, avec des partenaires de ces pays. Donc, oui, j'imagine que c'est disponible.
D'accord,
et si c'est pas encore le cas, ça va arriver très vite.
Donc les gens pourront déjà se faire une impression
pense,
par
oui.
eux-mêmes, voilà, d'accord.
Oui.
Mais parce qu'il y a aussi cet aspect-là, c'est qu'ils sont sur l'écosystème iPhone également et pas encore sur Android. Je ne sais pas si c'est un blocage que peut faire Google par rapport à ça ou si c'est simplement
une chronologie. Non, c'est parce qu'ils lancent une nouvelle technologie et donc ils le font petit à petit. C'est peut-être même au début, c'est peut-être limité géographiquement aux États-Unis et puis peut-être qu'ils étendent ensuite par OS et par secteur géographique. Donc, mais ça arrive. Ce qui est sûr, c'est que ça arrive. Bon, eh bien voilà donc pour notre partie des infos à retenir ou de l'info à retenir. On va donc faire une petite pause avant de passer à nos news et rumeurs. Et dans cette petite pause, je vais évidemment me faire plaisir à moi-même en remerciant très chaleureusement 10 des patriotes, des gens qui contribuent financièrement, qui mettent de leur argent durement gagné dans le fonctionnement de cette émission. Et je remercie donc du fond de mon cœur Laurent Chevillon, Breki Thomasson, Josué Rodride, JPM, Guillaume Vendée, Steve Masson, Alex, Eric Faramus, Alexandre Di Pino et Sébastien Bossoutreau. Merci à vous tous, certains de ces noms-là ne sont pas inconnus. Vraiment un immense merci de contribuer, de mettre des sous dans la production du Rendez-vous Tech. Et un merci très particulier cette fois-ci, parce que comme je le disais, après les épisodes précédents, je me sentais un petit peu... j'étais pas sûr de la manière dont l'émission était construite. Et donc je suis allé poser la question aux gens qui apprécient vraiment l'émission, qui apprécient l'émission le plus et qui peuvent se permettre d'investir très concrètement dans l'émission. Donc je suis allé sur Patreon Et j'ai demandé aux Patriotes ce qu'ils pensaient de ce format. Et comme je le disais en début d'émission, les réponses ont été quand même très positives. Mais surtout, au-delà de ça, je voulais encore une fois remercier tous ceux qui sont venus répondre. Il y a eu des dizaines et des dizaines de réponses. Que les gens aient eu des remarques positives ou pas, il y a eu quelques notes sur les choses auxquelles il fallait faire attention. Et j'ai tout lu, bien sûr. Hein, c'était... Mais c'est... Ce que je voulais dire, c'est que c'est une richesse incroyable pour moi, pour quelqu'un justement qui crée du contenu. Finalement, sur Internet, on est, j'imagine comme ailleurs, mais on est un tout petit peu dans le noir parfois. Et le fait de pouvoir avoir ces échanges avec les gens qui apprécient le plus ce qu'on crée, le plus ce qu'on produit, c'est une richesse invraisemblable. Moi, je j'étais pas sûr, j'étais vraiment un petit peu angoissé. En plus, je suis de nature angoissée. Et... Le fait d'avoir vos retours comme ça, c'était, ça avait une vraie, vraie valeur pour moi. Je veux dire, ça m'a... Et enfin, je sais pas, à chaque fois qu'on a ce type d'interaction, le fait de voir, je me suis dit, je vais poster cette update et puis on va voir, il y aura peut-être 5-6 personnes qui vont répondre, qui vont prendre le temps de dire ce qu'ils en pensent. Mais dès le premier jour, il y avait, je sais pas, peut-être 50 personnes qui étaient venues répondre et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc voilà, il y a une relation, encore une fois, je le dis souvent, mais une relation très particulière qui s'établit entre un podcasteur et son audience, et encore plus un podcasteur et ses soutiens, ses patriotes, mais en général avec son audience. Et c'était une fois de plus une preuve de tout ça. Donc je voulais encore une fois du fond du cœur vous remercier et vous exprimer ma reconnaissance. Donc merci à vous tous, les patriotes et ceux qui participent à l'émission et ceux qui nous écoutent. Évidemment, vous faites tous partie de la grande communauté, de la grande famille du Rendez-vous Tech. Donc voilà, merci à vous tous. Et on enchaîne avec les news et rumeurs, avec une petite série d'infos. Et la première qui m'a un petit peu fait sauter de ma chaise, c'est l'information selon laquelle il y a plusieurs opérateurs mobiles européens qui auraient comme projet de bloquer les publicités de... En fait, toutes les publicités sur leur réseau d'ici la fin de l'année. En fait, ça serait une sorte de méga adblock généralisé pour les opérateurs mobiles qui bloquerait toutes les publicités affichées sur leur réseau. On pense un petit peu à ce qu'avait fait Free pendant quelques semaines. Évidemment, c'est Google hein, qui est ciblé par cette opération, qui serait ciblé si ça se concrétise. Mais on pense à ce qu'avait fait Free qui supprimait les publicités notamment de Google sur leur réseau ADSL pendant quelques mois. Ça avait fait un tollé. Et au-delà de la question de l'adblock, je sais que certains des auditeurs et une bonne partie des auditeurs sont des utilisateurs d'adblock, certains simplement parce que les publicités les ennuient, d'autres presque par philosophie. Et moi, je suis par philosophie en fait assez opposé à l'adblock. Mon idée, pour résumer, étant que si on a un site qui nous plaît, enfin qu'on voudrait aller voir, mais qui nous gêne parce qu'il y a trop de pubs, eh ben on peut simplement avoir ne pas y aller. Y aller quand même, c'est à mon sens un petit peu malhonnête, parce que on refuse le contrat tacite qu'il y a entre nous, qui est moi je vois ton contenu gratuitement entre guillemets, mais en contrepartie je regarde aussi tes pubs. Et s'il y a trop de pubs, si ça abuse, eh ben je vais plus voir ton contenu et voilà, je vais le trouver ailleurs le contenu. C'est la loi de l'offre et de la demande. Mais au-delà de ce débat-là, qui est le débat d'adblock en général, sur lequel on discute depuis longtemps et dont on n'a jamais de réponse satisfaisante pour toutes les parties, il y a presque une attaque à la neutralité du net, c'est-à-dire que ces opérateurs regarderaient ce qu'il y a dans les pubs, ce qu'il y a dans les pages, dans le contenu qu'ils vous transmettent, et en élimineraient une partie. Alors on ne sait même pas ce qu'ils feraient à la place de ces pubs. Est-ce qu'ils injecteraient des pubs à eux? Est-ce qu'ils n'injecteraient rien du tout? À mon sens, vu la philosophie des opérateurs mobiles, ça serait sans doute pour intégrer des pubs à eux. Ça ne me surprendrait pas, on dirait, mais enfin, moi, ça me... À la fois la question de la pub et la question de la neutralité du net, ça me fait sauter de ma chaise, quoi. Ça me paraît choquant. Est-ce que je m'emballe ou c'est vraiment surprenant?
Tu me vois venir sur ce sujet-là, quand même. En fait, moi, toujours, je dramatise, hein. comme pour le sujet précédent.
Ouais, c'est ça, c'est l'apocalypse partout.
Voilà, non mais si on a une vision raisonnable, même en essayant une vision raisonnable, je trouve que c'est parfaitement... Enfin, c'est extrêmement choquant. Voilà, j'ai pas d'autres mots qui me viennent. En fait, ma façon de voir les choses, c'est toujours de me dire quelle est l'étape d'après. Et l'étape d'après, elle me plaît pas, parce que là, ce coup-ci, on nous prévient que les pages web pourraient se retrouver filtrées, enfin, pourraient se retrouver sans publicité. L'étape d'après, qu'est-ce que ce serait ? Parce que le problème, c'est avant tout, ce que disent les FAI, le problème avant tout, c'est de la rémunération, enfin, la façon dont sont payés le contenu des... J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais en gros...
Le truc, c'est que les opérateurs, là, effectivement, ils sont... Alors, ils font transiter du contenu, mais ils sont payés par les abonnés qui les payent. Donc, la manière dont... Il y a cette idée que les opérateurs de téléphonie mobile ou ADSL sont neutres. Et évidemment, c'est de là que vient l'idée de la neutralité du net. C'est un petit peu comme la poste, que vous lui donnez... un colis, et il vous amène votre colis, enfin, il amène le colis à la personne à laquelle vous l'envoyez sans regarder dedans. Et comparaison qui me vient, moi, tout de suite, c'est si j'achète un magazine et je l'envoie à Guillaume. Donc, j'ai acheté mon magazine, je l'envoie à Guillaume, et entre-temps, la poste ouvre le colis, regarde dans le magazine, va découper les pubs du magazine ou découper certains articles et le file à Guillaume ensuite altéré. C'est vraiment genre, mais de quel droit est-ce que vous vous permettez d'aller altérer le contenu que vous êtes censé transmettre ? Et je pense que même les fervents utilisateurs d'Adblock se retrouveront dans cette idée que ce n'est pas du tout le rôle des opérateurs d'aller jouer avec le contenu. Donc,
ce que je veux dire, c'est que si on suit la logique de ça, ça va au-delà du fait qu'il y ait des publicités ou qu'il n'y en ait pas dans les pages web. C'est surtout quels sont les acteurs qui consomment énormément de bandes passantes. Et ce que je me dis, c'est que l'étape d'après, ça pourrait être de filtrer Netflix, un peu comme Free le faisait, c'était YouTube, mais ça pourrait être Netflix, ça pourrait être les éditeurs de jeux vidéo en ligne, qui consomment énormément également de bandes passantes.
C'est tout le problème de la neutralité du net, quoi. Et c'est pour ça que c'est un principe important. T'as parfaitement résumé la chose.
Mais ce que je veux dire, c'est que tant que c'est des publicités, l'internaute, il voit quand même, d'une manière ou d'une autre, il voit quelque chose de pas positif, mais il voit pas de négatif.
Tant que c'est de la publicité... Moi, je suis pas sûr. Tu sais, je suis vraiment pas sûr. Ça serait intéressant que vous veniez sur le site de l'émission sur frenchspin.fr pour nous dire si vous êtes partisan des adblocks et oui ou non. Est-ce que vous pensez de cette potentielle opération des opérateurs mobiles ? Est-ce que vous seriez pour ou pas ? Moi, je pense que même si c'est de la publicité, le principe, avec cette explication, tu vois, du magazine que je t'envoie à toi, Guillaume, et de la poste qui l'ouvre pour y découper des morceaux, je pense que quel que soit ce qu'ils vont y faire, c'est choquant, mais...
Oui, je pense juste que si c'est Netflix, les gens seront encore plus choqués. Si c'est un système de... un éditeur de jeux en ligne, ils seront encore plus choqués. Et ce que je voulais dire, La finalité également, c'est le fait de bloquer la publicité, c'est les grands groupes qui pourront se frotter les mains, parce que les groupes n'ayant pas ou plus besoin de publicité pour se faire connaître, comme Amazon, finalement c'est plutôt les commerces de proximité ou les commerces nationaux à l'échelle plus locale qui se retrouveront coincés parce qu'ils ne pourront plus diffuser de la publicité. Je veux dire par là que si...
Non, ils devront passer par les autres agences de pub approuvées par machin parce qu'il est garanti que ça ne va pas rester...
Voilà, enfin, mais ouais, bon...
Ouais, non, mais oui, c'est là aussi, on pourrait repartir en fait sur la neutralité du net en général, et c'est un immense débat, mais appliqué à la pub, c'est quand même ça prend une tournure intéressante, quoi, c'est vrai. Le Monde, on en parlait tout à l'heure, eh bien, ils ont sorti une appli assez intéressante qui s'appelle La Matinale, et c'est une appli qui vous permet de sélectionner le matin, quand vous vous levez, les articles qui vous intéressent ou pas. Vous passez très rapidement, il y a une liste de, je sais pas, une vingtaine d'articles qui sont sélectionnés dans cette édition matinale, et quand vous vous levez, vous dites ça oui, ça non, ça oui, ça non, ça oui, ça non. Et ensuite, vous avez toute la journée pour lire tous les articles que vous avez sélectionnés. Et c'est une idée qui me paraît assez intéressante. On parlait de, régulièrement de ce fonds d'innovation de, pour la presse qu'a créé plutôt Google en partenariat avec la presse française. Et on se disait, bah, ils ont pas, on n'a pas l'impression d'en voir des résultats très concrets. Là, je me dis, si ça fait partie de ce truc, enfin, dans tous les cas, pourquoi pas? C'est une app, une utilisation intéressante. Ça veut dire que le matin, quand on se réveille, quand on est, je sais pas, aux toilettes ou au lit, eh ben, on fait notre sélection. Et puis après, quand on a quelques minutes dans la journée, dans le métro ou ailleurs, on a déjà tous les articles qu'on veut lire et on suit le flux de tous les articles qu'on voulait lire. Moi, je trouve ça, je sais pas si ça marchera, mais c'est une idée pas mal, quoi. C'est une idée intéressante.
Oui, je l'ai testé et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment agréable. J'ai juste cette sensation. Alors moi, c'est toujours le côté un peu négatif.
Ouais, d'accord.
J'ai toujours cette sensation décidément. Que ça arrive avec 5 ans de retard. Ou, enfin, je suis un peu sévère, mais au moins 3 ans de retard. Mais oui, c'était vraiment, vraiment agréable. Mais ça m'a pas fait cet effet wa parce que
non, c'est sûr.
Ça reste assez. Ça, c'est devenu presque banal entre temps. Mais c'est une façon de présenter l'info qui est très pratique. Ouais.
On a des nouvelles sur la sortie de l'Oculus Rift, le fameux casque de réalité virtuelle. Alors, on a entendu qu'il devrait sortir en version commerciale, donc encore une nouvelle version de l'appareil, au premier trimestre 2016, et avec les précommandes qui commenceront courant 2015. Alors, ça sera un appareil qui sera largement amélioré. Il y aura une meilleure résolution d'écran, des lentilles améliorées qui atténueront encore plus la pixelisation de l'écran, etc., etc. Donc, on sent vraiment que, comme on l'imaginait, la réalité virtuelle va commencer, l'ère de la réalité virtuelle va commencer à la fin de cette année avec d'autres acteurs comme Steam et HTC avec le Vive qui vont arriver à la fin de l'année, Oculus qui arrive début 2016, etc., etc. On a eu des détails aussi sur le prix. Il disait que ça serait sans doute un petit peu au-dessus de $200, mais pas beaucoup au-dessus, parce qu'il voulait que le produit qui a des applications pour les jeux, bien sûr, mais pas que, on sait que il peut y avoir des applications dans plein de domaines différents, donc que le produit soit un vrai produit de consommateurs finaux. Donc, ils se vendent autant que possible. Il est possible, enfin, ils ne rejettent pas l'idée de travailler avec le constructeur de consoles, même si on sait qu'ils ont leurs propres produits aussi. Et ils ont détaillé les spécifications techniques nécessaires pour utiliser l'Oculus Rift. Alors, ils disent qu'il faut, comme carte graphique au minimum, une carte graphique GTX 970, pour ceux à qui ça parle, ou alors une AMD 290. Voilà, au moins ces processeurs-là, un Intel i5 4590 ou plus, 8 Go de RAM, etc., etc. Compliqué pour les ordinateurs portables, du coup. Mais moi qui hésitais à m'acheter une carte graphique de ce type-là, je crois que finalement, c'est ce que je vais faire parce que, bon, je pense que je vais quand même si j'avais des problèmes avec l'Oculus, j'attendrai peut-être que quelqu'un l'ait. Mais je me dis que je serais peut-être intéressé si ces dernières versions réussissent à corriger mes problèmes de vision, de perception de profondeur. Évidemment que je voudrais essayer la chose, quoi.
En
toi,
gros,
t'es intéressé ?
Moi, il va falloir que je teste d'abord parce que je le ressens assez mal. Ça me file un mal de tête colossal. Mais j'ai déjà testé un coup et J'adore le principe, mais ça me j'ai le mal de, tu sais, comme en voiture, le mal de mer,
oui, bien sûr. Oui,
ça me fait c'est immédiatement au bout de 15 secondes, j'ai ça qui commence et ça désemplit pas.
En fait, les nouveaux modèles sont censés avoir justement une latence bien moins élevée et une meilleure résolution pour, entre autres, corriger ce problème. Donc, c'est un problème connu. Ils disent qu'il devrait être bien moins présent avec les nouveaux modèles. Donc, peut-être que ça te conviendrait mieux.
Tant mieux, en tout cas. Et sinon, ce que je voulais dire, c'était que j'avais un petit peu cette sensation d'arlésienne avec l'Oculus Rift, parce qu'on nous en parle vraiment. J'ai la sensation qu'on nous en parle vraiment depuis longtemps.
Ouais.
Et j'avais l'impression qu'il y avait un côté Google Glass, qu'on ne savait pas si ça allait vraiment sortir dans le commerce. Là, ça, je trouve que ça devient concret et je trouve ça vraiment une bonne nouvelle.
Ouais, on commence à s'exciter. En plus, si on aime les jeux vidéo, c'est l'une des zones où on a le plus de promesses pour cette technologie. Donc, personnellement, moi, j'espère, parce que comme moi, j'avais ce problème où je ne voyais pas la 3D, donc évidemment, ça ne me servait à rien, mais j'espère pouvoir faire partie de la révolution et que je pourrais.
Et côté PC, c'est quand même un peu exigeant, mais on peut se dire, bon, si ça sort d'ici, si c'est commercialisé en masse d'ici un an, on peut se dire que les ordinateurs dans un an seront quand même assez à l'aise avec ça. Mais si aujourd'hui on a un ordinateur qui a 2 ou 3 ans, ça risque d'être un peu juste. Donc il y a quand même cette impression que c'est quand même assez exigeant techniquement.
C'est sûr. Et puis, disons que surtout, cette technologie sera intéressante, non pas quand ça va sortir dans un an, mais dans 2 ou 3 ans. Là, ça va être les tout débuts. On va avoir des développeurs qui balbutient, qui font des expériences un petit peu bizarres. Si ça se trouve, tout ça va être un gros pétard mouillé. Donc, à moins que vous soyez vraiment enthousiaste, je dirais attendez au moins 2 ans à partir d'aujourd'hui, hein, donc un an après la sortie. Et voilà, et à ce moment-là, les PC seront peut-être un petit peu plus puissants. On parlait de Nokia Here, donc le service de cartes, et il semblerait que Nokia soit en train de chercher à le vendre. C'était l'une des grosses réussites de Nokia. Eh bien, figurez-vous que Uber serait sur les rangs pour payer 3 milliards pour Nokia Here. On sait que BMW, Audi, Mercedes-Benz, etc. seraient aussi sur les rangs, potentiellement pour le racheter. Et c'est marrant parce que ça refait référence encore une fois à cette idée que les voitures sont finalement des ordinateurs sur roues de plus en plus et qu'ils ont besoin d'un bon service de cartographie, quoi. C'est aussi intéressant pour Nokia qui se départit encore d'autres domaines d'activité, peut-être pour se concentrer sur le professionnel et le networking et ces choses-là.
Oui, puis en plus, Here, il me semble, est déjà très fortement embarqué dans les voitures. Donc du coup...
Donc, ça serait logique.
Ouais. Oui, voilà, il y a toujours cette sensation de frappe chirurgicale où on se met à acheter pile le truc qui va... Enfin, je veux dire, les grosses boîtes donnent pas toujours cette sensation d'avoir une vision... très précise de ce qu'elles veulent faire des sociétés qu'elles achètent. Là, on imagine parfaitement ce que Uber pourrait faire de Here.
C'est sûr, ouais, effectivement.
Un peu comme Microsoft a acheté Skype.
Ouais. Là, c'est pas juste une acquisition à la, je sais pas, PayPal qui achète Skype, justement.
Oui.
Google, la voiture, justement, j'ai des transitions incroyablement bien conçues. La voiture autonome de Google, qui a un petit rapport sur les résultats de leurs tests, après 1,7 million de miles, je ne sais pas combien ça fait en kilomètres, 1,7 million de miles, ça doit faire 1 million de kilomètres, un peu moins. Un mile, c'est 500 kilomètres, non ? C'est un demi-kilomètre.
Moi, il me semblait que c'était... Alors, non, il me semblait qu'un mile, c'était 1,6 km.
Ah, damned ! Mais tu as tout à fait raison. Donc, on est à plus de 2 millions de kilomètres. C'est encore mieux. Donc, on est à 2,5 millions de kilomètres. T'as raison, j'ai vérifié.
Ouais, c'est... Voilà.
Et après 2,5 millions de kilomètres, il n'y a eu que 11 incidents mineurs dont aucun n'était la faute de la voiture elle-même. Donc, on imagine que c'était sans doute les conducteurs derrière qui avaient mal freiné ou ce genre de choses. Et Google est prêt à mettre la voiture officiellement sur les routes, en test sur les routes américaines. Il y avait déjà des petits tests de petite envergure, mais cet été, il y aura des gros tests sur les routes américaines, avec une limite à 40 km/h quand même. Mais le champ d'application de ces véhicules, de Google en particulier, parce qu'ils ont un peu d'avance, s'étend tous les jours. Et c'est marrant, en écoutant les couvertures de cette histoire, j'entendais des gens dire « Un jour, dans pas si longtemps que ça, mais peut-être nos enfants ou les enfants de nos enfants diront « Mais il y avait une époque où les gens conduisaient eux-mêmes leur voiture !» Mais c'est hyper dangereux. Et là, on dirait, bah ouais, qu'est-ce que tu veux, c'était comme ça. Et il y avait des milliers de morts tous les ans. Et c'était comme ça, et on l'acceptait parce qu'il fallait aller d'un endroit à l'autre et on n'avait pas d'autre moyen. Et il disait, mais des milliers de morts, mais vous êtes malade! Vous êtes malade, vous faisiez les choses comme ça, mais c'est vraiment trop fou, quoi. Et je peux imaginer un futur comme ça parce que, évidemment, qu'il y aura des accidents quand si toutes les voitures se mettent à se conduire elles-mêmes, mais beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins d'accidents que ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Donc, le jour où toutes les voitures seront autonomes, le monde sera un paradis. Voilà. Ou les routes, en tout cas. Est-ce que tu as une vision d'apocalypse pour ça aussi, non, Guillaume ?
Non, non, au contraire, là, je suis complètement convaincu. Ah. En fait, quand on regarde 11 accidents mineurs en plus de 2,5 millions de kilomètres, comme tu disais, c'est un ratio qui est très inférieur à la sécurité routière de n'importe quel pays. C'est très positif, oui.
Reddit, vous connaissez Reddit, c'est un site en fait qui a énormément de succès aux États-Unis, enfin dans le monde anglophone en particulier, mais aussi de plus en plus en France. Et je l'avais utilisé il y a un moment, il y a un Reddit RDV Tech. Je me demande s'il ne faudrait pas le ressusciter un jour maintenant que Reddit est un petit peu plus connu. Mais en tout cas, c'est un site qui a énormément de succès où on peut livrer une histoire. Et enfin un lien plutôt, et les gens peuvent voter haut ou bas pour la faire remonter ou la faire redescendre. C'est un petit peu l'héritier spirituel de Dig de l'époque, pour ceux qui se souviennent de tout ça. Et donc il prend de plus en plus d'importance et il est en train de grandir et il grandit en essayant de polisser son contenu un petit peu plus. Il y a une nouvelle politique anti-harassement. On sait que Reddit était l'un des endroits où les gens se faisaient harasser et où les informations les plus controversées ressortaient. Et ils ont une politique très, très permissive pour protéger la liberté d'expression. Ils essayent de limiter aussi peu que possible. Mais là, il y avait un moment où ça devient vraiment difficile. On se souvient du scandale des photos de nus qui avaient été hackées sur les iPhones de plusieurs célébrités. C'était arrivé sur Reddit. Il y avait une partie du gros problème de Gamergate, dont certains se souviendront peut-être, qui avait évolué sur Reddit, etc., etc. Et donc, Reddit est en train de limiter ce genre de choses, ou en tout cas essayer de changer ses politiques par rapport à leur contenu. Moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est toujours difficile d'équilibrer la liberté d'expression, un concept qui nous est un petit peu, comment dire, étranger en France, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même parfois essayer de contrôler. Et Reddit grandit, donc c'est une bonne chose. Ça fait partie de ces services qui sont toujours dans mon champ de vision, et les gens qui me suivent sur Twitter le savent bien, mais dont je parle pas toujours ici. C'est comme Slack, qui est un outil de productivité, en fait un service de chat de productivité pour les entreprises et pour les petits groupes, qui a le vent en poupe vraiment en ce moment. C'est des trucs dont je parle pas trop ici parce que ça n'atteint pas la limite où je me dis il faut vraiment en parler dans le rendez-vous tech, mais il fait partie de ces sites, et Reddit est en train de passer cette limite. Vous connaissez certainement les Ask Me Anything, ces sessions où des gens connus, il y a même Barack Obama, enfin plein de gens vont sur Reddit, disent posez-moi n'importe quelle question, et en réponse ils peuvent répondre à toutes ces questions. C'est devenu très populaire, et d'ailleurs Reddit va créer du contenu vidéo original basé sur son contenu sur Reddit. Alors on ne sait pas exactement de quoi il s'agira, mais on imagine que les Ask Me Anything avec les gens connus justement pourraient faire partie de ces contenus vidéo. Donc voilà, t'es un utilisateur de Reddit, toi ?
Alors j'ai déjà essayé, j'aime bien, mais j'ai un peu de mal, je trouve ça extrêmement anglophone. J'ai pas de problème avec l'anglais, mais j'ai beaucoup de mal à y rester, quoi. J'y reviens parce que je sens bien qu'il y a quelque chose d'agréable à y rester, mais je n'arrive pas à y poser mes marques.
Et
par rapport à ce que tu disais, j'avais envie de te dire, pendant ce temps, on a Nicolas Sarkozy qui répond sur Twitter, parce que tu parlais
fils,
de... Non, non, qui parle... Ah. Non, non, il y a eu une opération où on posait des questions... Enfin, Nicolas Sarkozy était sur Twitter et il répondait à des questions, c'était cette semaine.
Ah, j'ai même pas vu, tiens.
Voilà, non, mais
D'accord.
je me disais, pendant qu'il y a des célébrités qui arrivent sur Reddit, il y en a d'autres qui découvrent Twitter. Non, mais c'est de la mauvaise foi. C'est de la pure mauvaise foi. Et après, pour aller plus loin dans la mauvaise foi, j'allais te dire, pour Reddit, tu te rends compte le taux de rétention si Reddit se mettait à devenir encore plus connu. Les gens vont commencer à aller sur Reddit, ils sortiront plus de Reddit, ils resteront que sur
Et Reddit sera l'internet pour certaines personnes, mais je crois que c'est déjà le
Exactement.
cas. Je crois que c'est déjà le cas. Oui, évidemment, Reddit n'étant pas assez connu en France, je pense pas qu'il pourrait être utilisé pour un AMA, comme ça s'appelle. Mais figure-toi qu'il y a un subreddit, donc c'est les sous-groupes. En fait, Reddit, c'est un petit peu comme les newsgroups, hein, pour ceux qui connaissent de la très vieille époque de l'internet. C'est comme pour les newsgroups où on essaye de réunir tous ceux qui s'intéressent à un certain sujet dans un groupe spécifique. Eh bien, figure-toi qu'il y a un subreddit France. Reddit.com/r/France est un subreddit consacré à la
Oui,
France. Donc,
je l'avais vu,
ça existe. Microsoft a annoncé qu'il y aurait plusieurs éditions de Windows 10. Ça a fait hurler certains qui disaient « Mais on pensait qu'il n'y avait qu'une seule édition de Windows 10 et maintenant vous annoncez qu'il y en a 7 différentes. » Bon, en fait, c'est très très simple, quoi. Il y a la version Home pour la plupart des utilisateurs classiques, la version mobile pour les mobiles, une version pro pour les entreprises, et puis après, c'est des trucs genre version entreprise pour la distribution à grande échelle, éducation, etc., etc., Internet of Things. En gros, il y aura plusieurs versions de Windows, mais pour 90% des gens, 99% des gens, c'est très simple. Vous prenez la version Home, il y a tout ce qu'il faut pour vous, et voilà. Ou alors la version mobile, si vous êtes sur mobile. Donc, pas de panique. Windows 10, c'est quand même beaucoup moins compliqué qu'une certaine époque où on ne savait pas quelle version choisir. N'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est encore super compliqué et ridicule. Windows 10, les éditions restent très simples. Autre news sur Windows 10, j'ai beaucoup aimé ce titre de Ars Technica alors je vais vous le lire en anglais dans le texte, hein. Humanity weeps as Candy Crush Saga comes pre-installed on Windows 10. Ce qui veut dire l'humanité se lamente et pleure quand elle apprend que Candy Crush Saga sera pré-installé sur Windows 10. J'avoue que c'est un petit peu la terreur du vrai gamer, ce type de jeu comme Candy Crush Saga. Et on se dit qu'il y aurait peut-être d'autres jeux un petit peu plus sympas à installer sur Windows 10. Mais bon, c'est aussi un succès énorme. Donc voilà, la nouvelle est là.
Ouais, enfin jusque-là, on avait des jeux de dames, des free sales et je sais pas trop quoi qui étaient...
Mais c'est bien mieux que Candy Crush Saga, monsieur. Candy Crush Saga, c'est la lèpre du jeu vidéo. Bon, non, il y a beaucoup de gens qui aiment bien et je n'ai rien contre King et Candy Crush Saga. Enfin, pas grand-chose. Autre info, toujours pour Windows 10 en version mobile, Microsoft serait en train de reprendre le contrôle sur les mises à jour de Windows 10 mobile, c'est-à-dire que les opérateurs mobiles n'auraient plus leur mot à dire pour les mises à jour des devices sous Windows 10 mobile. C'était déjà un petit peu le cas, c'est la situation, la fragmentation est bien moindre que sur Android, mais là, il semblerait que Microsoft reprenne 100% la main, et ça, c'est une super nouvelle, parce que ça voudra dire que à peu près tous les appareils qui sont éligibles à une mise à jour quand ils auront Windows 10, c'est-à-dire si vous avez déjà Windows 10, il y a une mise à jour après, si votre appareil est éligible et que la chose a été bien testée, eh bien c'est Microsoft qui décidera, c'est bon, vous l'aurez, et donc vous l'aurez dès que c'est vraiment disponible et testé. C'est une super nouvelle pour les utilisateurs de Windows Mobile. Le droit à l'oubli, on a après un an les premières statistiques justement, hein, Guillaume, sur le droit à l'oubli, et Google a rejeté 70% des 250 000 demandes de retrait de liens qu'ils ont reçus. C'est intéressant la manière dont ça fonctionne. Ils ont encore une fois pointé du doigt le fait que c'était pas à eux de décider les demandes à approuver ou à rejeter et qu'ils ne voulaient pas être dans ce rôle, mais vu qu'ils y sont, ils ont un comité qui s'occupe de ça et ils gèrent les choses de manière assez bien puisque il y a seulement quelques dizaines, je crois que c'est 42, quelques dizaines de cas où les les gens qui avaient demandé une demande qui a été rejetée ont continué à insister, ont saisi les tribunaux. Donc sur 250 000, ça fait quand même une somme, enfin un total assez limité, quelques dizaines. Mais bon, moi je continue à dire que c'est pas le rôle de Google, ça devrait pas en tout cas être le rôle de Google, mais il se démerde pas mal dans tout ça. Rejeter 70% des 250 000, moi, en tant que défenseur de la liberté d'expression, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose.
Oui, je suis d'accord. Et puis, oui, il y a toujours cette tendance actuelle où on préfère soumettre des missions comme celle-là à des sociétés tierces plutôt que faire jouer la justice dans un premier temps. Ouais. C'est tout un débat, parce qu'il y en a plein qui disent que de toute façon, la justice pourrait pas s'occuper d'autant de cas particuliers, et qu'il faut qu'il y ait d'abord une société qui, avec le big data et plein d'autres trucs, parvienne à essaimer pour arriver à sortir uniquement les vrais problèmes de sur les données.
Et qu'ensuite ça va vers les tribunaux s'il y a
voilà, une fois que c'est... Ouais. Je suis pas sûr que Google puisse faire à ce point-là les choses convenablement. Mais dans l'absolu, je suis entièrement d'accord avec toi, dans l'absolu, je trouve que c'est beaucoup moins grave de laisser passer un truc qui devrait être interdit que d'interdire un truc qui devrait être autorisé.
Ah, très, très belle formule. Je vais la garder, je pense, pour l'avenir. Autre info franco-française, Kickstarter arrive en France. Bon, c'est juste une petite info comme ça. Si vous voulez lancer un projet sur Kickstarter, vous pouvez désormais le faire sans avoir besoin de passer par une société tierce, par un porteur de je sais plus quoi. Enfin, c'était pas hyper compliqué, mais désormais, vous n'avez même plus besoin de ça. Vous pouvez directement le faire en France et en français. C'est peut-être un petit peu une mauvaise nouvelle pour Indiegogo ou Ulule, mais bon, Kickstarter est le gros mastodonte dans cette affaire et ils sont désormais présents en France.
Mais il me semble que Ulule est second mondial, il me semblait, au niveau des chiffres.
Mais quand tu vois les chiffres...
Bah, y a un rapport de 1 à 10, j'ai regardé, par rapport à l'argent qui est gagné sur, qui est récupéré sur les deux plateformes. Il y a un rapport de 1 à 10, sauf qu'on a un Kickstarter qui est international et un Ulule qui est très fortement national. Moi, je trouve que le rapport de 1 à 10, il est plutôt correct pour, vu la répartition géographique des deux plateformes.
C'est sûr, c'est sûr. Et puis surtout, il peut y avoir un gros avantage à utiliser une plateforme plus modeste, parce que Kickstarter, il va y avoir des dizaines et des centaines de projets tout le temps. Ulule, peut-être qu'il est plus facile de remonter au sommet quand on a une structure un petit peu plus petite. Donc, bon, en même temps, c'est que des projets français, donc je sais pas, c'est compliqué. En tout cas, maintenant, vous aurez le choix entre toutes ces plateformes-là. Toujours en France, on a un nouveau plan pour l'école numérique, à côté des controverses sur le collège, la réforme du collège. On a 1 milliard d'euros qui sera dédié à l'école numérique, selon François Hollande, qui nous dit qu'il a l'ambition que la France puisse être un leader dans l'éducation. Alors, je vous avoue que l'éducation, rien que la formule me fait sourire, parce que c'est un petit peu les phrases buzz des années 2000, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Ce qui m'a paru intéressant, c'est qu'il y a eu d'une part des programmes qui sont consacrés aux élèves, bien sûr, avec de l'initiation à la programmation, etc., etc., mais aussi une partie des éléments dédiés à la formation des enseignants. Parce que c'est vrai que le problème, c'est que si on a des enseignants qui utilisent moins bien leurs appareils que les étudiants, ça va être compliqué de leur faire apprendre quelque chose ou d'être convaincant. D'un autre côté, est-ce qu'on peut se dire qu'un enseignant qui a, 45 ou 50 ans, qui n'a jamais utilisé vraiment d'ordinateur ou qui ça fait pas partie de son quotidien, est-ce que ça va être en ayant une formation de 2 semaines sur les iPads et le Windows qui va réussir à comprendre vraiment comment ça marche? Est-ce que c'est pas un problème où c'est un problème de génération, il faut que les générations changent pour qu'on puisse vraiment arriver à des résultats convaincants? Je sais pas, mais en tout cas, il faut essayer de former les enseignants. Je pense que si on les forme pas, ça va pas arranger les choses, c'est sûr.
Je pense que c'est le problème numéro un, parce que en plus, il est question de, il me semble, à la rentrée ou celle d'après, de distribuer une tablette à tous les élèves. Ça pose énormément de problèmes logistiques, ne serait-ce que... Enfin, ça revient à donner un appareil qui coûte vraiment beaucoup d'argent. J'écoutais une institutrice qui expliquait que le problème était avant tout, enfin une professeure d'école, ouais, qui expliquait que le problème était avant tout que l'élève puisse appréhender l'objet à sa manière, et donc la formation de l'enseignant est importante, mais de toute façon, on peut pas formaliser les choses à ce point-là, on peut pas essayer d'enseigner ça. Il faut, c'est du feeling, c'est en très grande partie du feeling. Et l'autre aspect, moi qui me surprend à chaque fois, c'est, alors j'étais peut-être une exception, mais par rapport à l'initiation à la programmation, moi je me souviens que lorsque j'étais en cours élémentaire, donc ça remonte à il y a 25 ans, moi j'avais déjà des cours de programmation à l'époque, mais c'était seulement une heure par semaine ou quelque chose comme ça. J'avais des cours de logo. Le langage
ouais
voilà, et on était sur des TO7 ou des MO5, je sais plus, et une heure par semaine je faisais de l'algorithmique.
On fait partie de la même génération, parce que c'était mon cas aussi, mais figure-toi que ça a disparu depuis, et que donc l'idée est de le faire revenir.
Mais j'avoue que j'ai cette sensation que ça m'avait servi, parce que ça forme une espèce de logique algorithmique.
Ça t'aide à comprendre comment fonctionne un ordinateur, finalement. Mais...
Et puis, ne serait-ce que l'utilisation d'un clavier. Moi, j'ai des parents, lorsque je les mets en face d'un clavier, c'est pas simple.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais tu sais, en même temps, bon, pour un outil qu'on utilise tous les jours, un clavier, effectivement, oui, je pense qu'il faudrait ce type d'initiation, c'est certain. Maintenant, l'utilisation de la programmation... ça, je suis un petit peu plus... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « il faut apprendre à programmer à l'école », etc. Mais c'est comme dire « il faut apprendre à construire un moteur à l'école ». On utilise des voitures tous les jours. Bon, moins qu'un ordinateur, c'est sûr, mais est-ce qu'on a besoin de savoir programmer pour utiliser un ordinateur ? Moi, je me dis qu'il faudrait plutôt apprendre à utiliser l'ordinateur, c'est sûr, à utiliser le clavier, et puis apprendre comment fonctionnent les sites, en ce sens que... Comment ils sont rémunérés? Qu'est-ce que sont les données privées? Comment est-ce qu'on va... que veut dire le petit cadenas dans l'adresse URL? Pourquoi c'est important? Les données chiffrées, etc. Tu vois, plus ce genre de choses que l'apprentissage de la programmation.
Ça serait plus une approche citoyenne sur le rapport du jeune citoyen à l'univers informatique et à l'univers web.
Écoute, je vais ajouter un buzzword dans cette phrase. C'est le rapport citoyen et républicain à l'informatique. Non, bon. C'est moi je trouve.
Oui, d'accord.
Ça bien.
Mais bon, d'accord.
Non, mais parce que tu vois, on dit toujours citoyen, le citoyen, l'école de la République, et il faut être citoyen, le geste citoyen. Je sais pas, moi ça me paraissait un petit peu approprié.
D'accord. Ok.
Non, mais c'est vrai, tu trouves pas? Je suis d'accord avec toi en plus. C'est juste.
D'accord, je pensais que tu te moquais de moi, mais parce que
quelque part,
c'est des
tout.
Termes un petit peu pompeux, et je suis d'accord des fois, bon, quand on utilise tous ces termes-là, bon.
Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est cet aspect de l'informatique qui, à mon sens, est important. Plus que vraiment savoir programmer, faire un programme pour afficher Hello World sur l'écran. Tu vois, ça, parce que Hello World, c'est le truc, le premier programme qu'on fait dans n'importe quel langage, c'est afficher Hello World sur l'écran. Comme ça, vous saurez maintenant, chers auditeurs.
On faisait
avancer une tortue.
Il fallait, oui, voilà, on me faisait avancer une tortue.
Ouais, logo. Bon, on a plus d'informations sur le marché unique que voudrait créer l'Union européenne. Et à mon sens, je ne sais plus si on en avait déjà parlé, mais je crois qu'on l'avait évoqué, mais c'est quelque chose de très important, avoir un marché unique avec des réglementations uniformisées, en ce sens qu'on aurait plus de facilité pour faire du business, en quelque sorte, dans toute l'Europe, plutôt qu'uniquement dans son pays. C'est un vrai problème dans l'Union européenne. Le marché est plus important quand même qu'avant l'Europe, mais on a quand même des difficultés à sortir de notre propre marché et ça ralentit notre dynamisme économique. À mon sens, ça, c'est une bonne chose. Ça passerait par des trucs comme l'uniformisation des lois sur les taxes, la TVA notamment. Bon, c'est pas facile du tout, mais ça pourrait être une très bonne chose pour l'économie européenne, je pense. Et ça passe par, enfin, ça permettrait en fait plus facilement à un site web de vendre dans toute l'Europe plutôt qu'uniquement d'abord en France, puis en France et en Espagne et en Italie, puis un petit peu en Allemagne, puis machin, ça serait beaucoup plus simple. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Bon, je... Comment dire, on va faire une minute de silence pour la... liberté d'expression en France, on va dire, et vous savez de quoi je vais parler. Le projet de loi sur le renseignement a été adopté. On s'en doutait un petit peu, hein, c'était pas si étonnant que ça, mais il a été adopté par 438 voix pour, 86 voix contre et 42 abstentions. Et comme je le disais il y a quelques temps, je vais pas faire encore refaire tout un fromage dessus, je ne perds pas foi en... La République, justement, pour reprendre mon petit ton moqueur de tout à l'heure, je ne perds pas foi en la République, je ne perds pas foi en le processus démocratique, mais s'il y avait quelque chose qui devait me faire perdre la foi, je me dis que ça serait peut-être ça, parce qu'on a une problématique où tous les spécialistes, tous les gens qui connaissent, que ce soit dans le domaine technique de l'informatique, dans le domaine légal, dans les domaines, enfin, dans le domaine, dans tous les domaines, finalement, les gens qui s'y connaissent, sont d'accord pour dire que c'est une loi inutile, dangereuse, compliquée à mettre en œuvre et qui est une loi plus de façade que d'efficacité. Et malgré ça, on a eu 438 voix pour. Bon, évidemment, comme ça, c'était le cas dans les épisodes précédents, ça me met assez hors de moi. Mais bon, c'est le processus démocratique, c'est comme ça que ça marche. Il faut maintenant accepter les lois qui sont votées. Si on veut faire quelque chose contre, il faut rentrer en politique, je crois. Mais il y a quand même deux petites lueurs d'espoir. C'est que d'une part, pour la connaissance générale, aux États-Unis, on a une sorte de sursaut démocratique où les députés votent une reconduction, mais une reconduction avec des limites et un encadrement du USA Freedom Act, qui est la base sur laquelle la NSA a pu lancer toutes ses opérations de collecte de données de masse, en particulier sur les métadonnées des téléphones mobiles, etc. Donc, il y a une sorte, sans doute grâce en partie grâce à Snowden, il y a une sorte de réveil aux États-Unis où on se rend compte qu'il faut peut-être encadrer et limiter les choses. Ironiquement, en France, c'est aussi fait dans un cadre légal qui est effectivement a priori encadré. Donc, contrairement à ce que pensent certains en France qui ont dit « Ah, mais regardez, les États-Unis reculent sur la surveillance de masse, alors qu'en France, nous, on avance. » Et oui, c'est factuellement, c'est vrai, mais aux États-Unis, le problème, c'est qu'ils sont partis de tellement loin que maintenant qu'ils sont en train de l'encadrer, finalement, on arrive à peu près à un niveau auquel nous, on est en train d'arriver, à peu de choses près, hein, je schématise, mais... C'est pas si différent que ça, aussi différent que certains le pensent, mais il n'empêche que la dynamique va dans deux directions complètement opposées. Et j'espère aussi que grâce à tout le ramdam qu'on a fait, parce que mine de rien, nous, technophiles, on a fait un ramdam, nous, auditeurs du Rendez-vous Tech, qui avons appelé nos députés, y en a eu quand même quelques dizaines, hein, et ça compte, je suis convaincu que ça compte, mais surtout les organismes comme la Quadrature du Net, Reporters sans frontières, etc., et d'autres gens influents qui ont fait du bruit là-dessus, et ben, on va avoir un avis du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel va être saisi, etc., etc. Donc, tout n'est pas perdu, mais voilà, le fait est que la loi a été adoptée, quoi.
Je suis assez peu optimiste, hein. comme tu peux t'en douter.
Bien sûr, oui.
C'est vrai que la Quadrature du Net fait un travail remarquable. Moi, je me souviens surtout pour ACTA. Ils étaient arrivés à faire voter une loi contre ACTA au Parlement européen. Et c'était vraiment un très gros succès. Et il y avait eu un très gros travail de lobbying effectué par des associations comme la Quadrature du Net, avec la Quadrature du Net en tête. Là, j'ai la sensation que, effectivement, ça va passer devant le Conseil constitutionnel, tu viens de dire, c'est ça.
Bah, je
Et
pense pas qu'ils vont la rejeter, mais
en fait,
ouais.
enfin, c'est pas de la même nature, mais ça me fait toujours penser à Hadopi, qui est d'abord passé devant le Conseil constitutionnel. Il a fallu revoir la loi. Au final, ils ont modifié 2-3 virgules, et puis c'est repassé, puis il y avait plus de soucis. Donc,
Mais la différence, si tu veux, c'est qu'avec Hadopi, là où c'est structurellement et intellectuellement différent, c'est qu'il y avait des gens qui la voulaient, cette loi, des acteurs qui étaient concernés par la loi qui la voulaient. C'est-à-dire que les ayants droit voulaient Hadopi, étaient convaincus que ça marcherait. Là, même la sphère juridique dit, mais non, ça sert à rien. Enfin, même enfin, je sais pas, j'ai l'impression que la police n'est pas hyper pour non plus.
Oui, enfin,
Tu vois,
il y a
mais.
quand même du lobbying commercial. Je pense que derrière ça, il y a quand même des sociétés dont l'objectif est de vendre de la
Non.
prestation, tu sais, tout ce qui est DPA
Ouais.
pour...
Deep Packet Inspection. Mais
Voilà.
non, non, moi, à mon avis, c'est pas ça. À mon avis, c'est uniquement du grandstanding, comme on dit en anglais, de la posture politique qui fait suite aux attentats de Charlie Hebdo. Et le pire, c'est que même Charlie Hebdo dit, mais cette loi est une ineptie, arrêtez de nous prendre comme caution pour cette loi. Enfin bon, bref, on
Mais
verra,
enfin,
hein,
je
ça
suis
doit encore
d'accord avec
passer au
toi, mais
Sénat. Ouais, pardon.
je suis d'accord avec toi. Je suis juste beaucoup
Les
moins.
abuser.
Oui, et puis oui.
Ouais.
Et puis,
Ouais,
puis,
ouais, ouais.
je... et puis c'est avec ce genre de loi qu'on voit qu'il n'existe plus réellement de clivage. Après, je pourrais aller beaucoup plus loin, mais j'ai cette sensation que on a une des représ... enfin, c'est des représentants qu'on a, et le système démocratique tel qu'il est fait qu'on a des représentants. Et la démocratie représentative a des limites.
Je comprends pas ce que tu veux dire. On a des représentants, effectivement, mais c'est
Je
des
veux dire,
gens qui
non,
nous représentent.
oui, je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est que la démocratie représentative a des limites. Lorsqu'on vote nous-mêmes pour des
Ah.
gens,
Et tu
je trouve que
voudrais.
ça a du sens, mais quand on vote pour des gens qui eux-mêmes votent pour des choses, je trouve que ça a beaucoup moins de sens. Parce
Et
que
là.
on élit des gens qui ne représentent pas réellement, qui ne sont pas le reflet de ce que de nos problématiques et des enjeux auxquels on fait face.
Et là, je dirais que c'est un problème éternel de la manière dont la démocratie est implémentée. Et on part sur d'autres questions, mais est-ce que tu crois sincèrement que si on avait demandé à la France entière de voter sur cette loi, elle ne serait pas passée? Évidemment qu'elle serait passée. Et donc, ça pose la question de savoir si il faudrait voter uniquement des lois qui sont sur lesquels la population s'accorde à plus de la majorité. Est-ce que le peuple sait ce qui est bon pour lui?
C'est pas tout à fait ce que je
C'est.
veux dire, c'est qu'on pourrait avoir un parlement représentatif beaucoup plus proche des problématiques auxquelles on fait face. C'est uniquement ça que je veux dire.
Mais
On a.
comment est-ce que tu l'implémenterais ça? Avec plus de proportionnel aux élections parlementaires
Ça
ou.
pourrait passer par là, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui se présentent pour des postes de députés, enfin des missions, enfin des comment le terme, c'est enfin
Oui.
pour être députés, appartiennent à une classe sociale
Oui, c'est la
déconnectée de nos
fameuse.
problématiques.
Oui, c'est la caste. Bah, c'est un problème en politique en France en général. C'est des
Voilà,
énarques,
voilà.
c'est des normaliens. C'est. Mais oui, mais à ce moment, mon cher Guillaume, il y a un moyen très simple de corriger ce problème. Il faut que, tout simplement, ceux qui estiment qu'ils ne sont pas représentés se présentent. Voilà, c'est tout. C'est, tu vois, tu te présentes. Si effectivement tu. En plus, aujourd'hui, avec Internet, ça n'a jamais été aussi simple de faire valoir ses idées et sa candidature. Il y a, je sais pas, il y a 20 ans ou 25 ans, là, on aurait eu effectivement un véritable problème parce qu'il fallait absolument être soutenu par le système pour avoir une chance d'être élu. Aujourd'hui, c'est plus le cas.
Oui, mais
Tu
attends,
peux
là,
tout à
je suis
fait.
d'accord complètement avec toi, mais là on parle de
On quitte le
politique.
rendez-vous tech, hein, mais.
Là, on parle de politique, mais ce que je veux dire, d'un côté, on a la quadrature du net qui fait un travail remarquable, et de l'autre, si on parle vraiment de politique, on a par exemple le Parti Pirate, qui a été très largement transparent pendant toute cette affaire.
Eh
Et.
bah oui, mais c'est pas le. Oui, mais c'est pas le problème de. Enfin, ils auraient pu dire beaucoup de choses, le Parti Pirate. Ils auraient pu être beaucoup plus présents et ils n'ont pas été. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est parce que le Parti Pirate a dû. Enfin, je sais pas, soit ils n'étaient pas assez forts, soit ils n'ont pas estimé qu'il fallait intervenir, soit. J'en sais rien. Mais c'est pas le problème. Si tu veux, la situation telle qu'elle est. Tu dis oui, il faudrait qu'on ait des gens qui nous représentent mieux, qui soient au Parlement, mais d'une part, on se met le doigt dans l'œil si on pense que c'est une vraie préoccupation de l'essentiel des Français que la liberté sur Internet, c'est ils comprennent pas. Et ensuite, c'est tout à fait possible, encore une fois, il suffit de se faire élire. Allez-y, chers auditeurs du Rendez-vous Tech, si vous voulez vous engager en politique, sachez que vous aurez mon soutien. Voilà, c'est dit. Bon, on conclut rapidement avec Google, toujours dans ses histoires de liberté d'expression, Google qui confirme que la police peut écouter et surveiller les messages envoyés sur Hangout. Donc voilà, c'est dit. Et en même temps, il y a le système chiffré et décentralisé de messagerie directe de BitTorrent qui s'appelle Blip, qui est lancé publiquement sur Android, iOS, Windows et Mac. Donc, si vous voulez avoir un système vraiment sûr, eh ben, vous pouvez utiliser Blip sur toutes vos plateformes préférées. Voilà, c'est chiffré et décentralisé et c'est géré par BitTorrent. On va passer Firefox qui sort une version avec DRM de leur navigateur, mais qui font quand même une version sans DRM aussi. On laissera le débat sur ce sujet peut-être un autre jour. Et on va finir avec, bon, d'une part, Warner Music qui avoue enfin, qui admet que le revenu du streaming a dépassé le revenu des téléchargements. Vous savez que le streaming, c'était un petit peu le mouton noir du monde de la musique avec les ayants droit qui disaient ça rapporte rien du tout, voilà. Et bien évidemment, parce que le streaming était trop petit, maintenant le streaming est en train de s'imposer, donc ça commence à rapporter. Et on conclut vraiment avec une vidéo qui va vous redonner le sourire. Si vous ne l'avez pas vue, cherchez la vidéo sur le nouveau drone qui s'appelle Lily. Et c'est un drone autonome qui fait des trucs incroyables. C'est-à-dire que vous le lancez dans les airs, il se met en marche automatiquement et grâce à un petit tracker GPS que vous avez sur vous, il vous suit partout où vous allez. Et il y a plusieurs modes. Vous pouvez le mettre en mode suivi, en mode sur le côté. Donc, il va se décaler automatiquement et se mettre sur le côté. Il vous reconnaît, il sait où vous êtes. Vous pouvez le mettre en mode précédé. Donc, il vous précède et il vous suit par devant. En fait, il vous précède et il vous filme de devant. Il a une super qualité vidéo, etc. Il coûte presque 900 $ et 500 pour ceux qui le précommandent. C'est quand même un petit peu cher, mais on se doute bien que c'est pas pour tout le monde, mais c'est surtout pour les gens qui veulent d'une part faire des vidéos de sport, vous savez, de sport extrême. Vous pouvez directement vous-même utiliser ce drone sans avoir un outil, enfin une personne pour vous filmer derrière qui va aller aussi vite que vous, etc. Ou alors pour les films amateurs, enfin ça permet de faire des plans absolument incroyable grâce à ce petit outil qui coûte moins de 1 000 €, et ça permet de faire des plans. Là où moi j'ai travaillé dans l'industrie du cinéma, il fallait avoir des grues, des machins, des trucs qui coûtaient des milliers et des milliers d'euros par jour de tournage. Là, c'est pour les cinéastes amateurs. Enfin, vraiment, allez voir cette vidéo. À un moment, on l'envoie dans l'eau et il remonte tout seul. Enfin, c'est incroyable comme drone. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très enthousiastes pour les drones, mais là, c'est même les gens qui n'aiment pas spécialement les drones, je pense que ça peut pas ne pas vous intéresser. C'est un drone qui s'appelle Lily, Lily. Allez y jeter un coup d'œil. Ça m'a vraiment donné le sourire, moi. Tu l'as vu, la vidéo, Guillaume?
Non, non, je ne l'ai pas encore vu. Là, je regardais l'article, j'avoue, je suis passé au travers de ça, mais les
Bah, c'est un
drones, ça
truc à
m'attire
pas rater.
énormément. J'ai pas le budget, mais ça m'attire énormément.
Celui-là, il est
C'est
un peu
très
cher, c'est
impressionnant, hein.
sûr. Celui-là, il est un peu cher, mais il est tellement impressionnant, donc allez jeter un coup d'œil. Et voilà, on finit quand même sur une histoire sympathique. C'était donc le drone Lily et on va terminer cet épisode. Je vais quand même, avant qu'on se quitte, vous rappeler que vous pouvez suivre l'émission et trouver d'autres émissions sur frenchspin.fr. Vous vous souvenez de ce site-là et vous y retrouverez aussi le rendez-vous jeu. Entre parenthèses, il va y avoir dans quelques semaines à peine, on est à un mois, du grand salon de jeux vidéo qui s'appelle l'E3, qui est un énorme événement et qu'on va évidemment couvrir dans le rendez-vous jeu. Donc, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ce podcast aussi si vous voulez suivre ces informations-là. Vous pouvez aussi retrouver d'autres émissions comme Positron, Upload, etc. Et surtout, commenter sur le rendez-vous tech. Vous savez que c'est quelque chose d'important quand, d'avoir vos commentaires, de savoir ce que vous avez pensé de l'émission. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur iTunes, au hasard, nous partager sur Twitter ou sur Facebook. Ça nous aide énormément, ça aide les gens à nous découvrir aussi. Et vous savez que le monde entier doit savoir comment fonctionne la tech, il faut qu'on comprenne le monde dans lequel on vit, il faut que vous répandiez la bonne parole, donc partagez-nous sur Facebook, au hasard. Je suis NotPatrick sur Twitter, je suis aussi NotPatrick sur Facebook, et je suis Patrick Béja sur Google+. Oui, bien sûr, il ne faut pas oublier Patreon, si vous voulez aller encore plus loin et nous soutenir financièrement, si vous voulez que l'émission continue et s'améliore, bon, elle est là de toute façon, mais si vous voulez participer, et si vous pensez, comme je le dis toujours, que l'émission a une valeur pour vous et que vous, si vous vous dites que si elle n'était pas là l'émission, ça m'emmerderait un petit peu quand même, eh bien vous pouvez nous soutenir sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Vous pouvez donner 1, 2, 3 dollars, ce que c'est, ça fait toujours plaisir. Et voilà, c'est tout pour nous. Je donne tout de même la parole à Guillaume pour qu'il nous dise où on peut le retrouver sur l'internet.
Alors on peut me retrouver sur Statosphère, avec le pseudo Statosphère sur Twitter, et sur Statosphère.fr. Pour l'instant il n'y a pas de nouvel article, mais je prépare des choses qui devraient apparaître d'ici quelques mois.
Très bien, super, donc Statosphère sur Twitter. C'est donc la fin de cet épisode. Ah oui, entre parenthèses, petite note au passage, le prochain épisode risque d'être un petit peu particulier parce que certains d'entre vous se souviennent certainement du fait que je ne rate jamais un épisode. En tout cas, j'essaye de ne jamais rater un épisode. Et il y avait un épisode où j'étais... Oui, à vrai dire, j'ai encore plus de motivation maintenant que je suis payé par épisode, mais il y avait un épisode où j'étais dans l'aéroport de Moscou. Et j'avais enregistré en retour de Moscou un épisode tout seul dans l'aéroport de Moscou. Et ça avait fait, amusé pas mal des auditeurs. Il y a un truc qui pourrait être... Voilà, je serai pas à Paris et ça pourrait être un petit peu... Bon, ça va être marrant, voilà, ça sera un petit peu différent. Je n'en dis pas plus, je laisse le mystère entier et on sera de retour donc avec ce nouvel épisode dans 15 jours. Merci à toi Guillaume d'avoir été là, merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés, merci aux Patreons de nous soutenir et rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau rendez-vous tech. Ciao à tous.
Merci, à bientôt.